France Culture, les matins d'été.
Bonjour, Julie Deliquet.
Bonjour.
Metteuse en scène, fraîchement nommée directrice du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, Centre Dramatique National. Nous allons en parler de votre vision de l'art populaire et de ce que vous attendez, vous aussi, comme vision pour la culture en France. Mais parce que celle-ci, la culture, n'est pas totalement en ruine, je voudrais que l'on parle d'abord de ce film qui sort demain, Celle qui chante, au pluriel, film qui aurait dû être présenté en sélection officielle au Festival de Cannes, et qui sera donc bien au cinéma demain, une proposition venue de la troisième scène, la scène digitale de l'Opéra de Paris. Un film qui en compte quatre courts-métrages réalisés par Sergueï Loznitsa, Karim Moussaoui, Jafar Panahi et vous donc Julie Deliquet. Votre film dans ce film s'appelle Violetta. D'abord, dites-nous quelle était la proposition et pourquoi vous l'avez acceptée.
C'est le producteur Philippe Martin qui, effectivement, après avoir vu mes spectacles, m'a proposé cette commande qui est très libre, hein, parce que effectivement, il s'agit de réaliser un film avec la notion d'opéra qu'on développe vraiment de manière extrêmement diverse. Ça peut être avec la musique, ça peut être en filmant les lieux. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que moi, je suis pas réalisatrice. Et du coup, c'était une double provocation parce qu'il s'agissait de s'emparer de la notion d'opéra et aussi de m'exprimer à travers un nouveau support. Donc j'ai trouvé ça extrêmement amusant, passionnant et je suis partie dans cette aventure comme ça.
Voilà, le cinéma pour vous, effectivement, c'était une première, et l'opéra, vous dites que vous n'êtes pas particulièrement spectatrice d'opéra, pas forcément régulière. Alors, ce film, donc, Violetta, se déroule entre les couloirs de l'Opéra Bastille, à Paris, et ceux de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, un grand centre de cancérologie, deux lieux, deux femmes. Alexandra Kurzak, la soprano, qui à ce moment-là interprète Violetta dans La Traviata de Verdi d'après La Dame aux Camélias, une femme malade donc, et une autre femme interprétée par la comédienne Magali Gaudner, qui elle, réellement malade et qui va subir une chimiothérapie. Pourquoi ces deux femmes? Pourquoi ce lien de la maladie?
Ça a vraiment été un concours de circonstances. Après, j'imagine que les choses étaient très inconscientes de ma part. On nous propose, quand on part dans ce projet de la troisième scène, tout d'abord de visiter les deux opéras pour voir s'ils nous inspirent.
Bastille et Garnier.
Alors moi, j'étais à la Comédie Française à ce moment-là, donc je savais que Garnier ne serait pas mon terrain de jeu. Donc en visitant Bastille, j'ai été quand même frappée par ces couloirs labyrinthiques qui tout de suite m'ont fait quand même penser aux couloirs de l'hôpital. Et puis on regarde aussi la programmation, il y avait une Traviata qui se jouait quelques mois plus tard, qui correspondait aux dates de tournage. Et ça a été comme ça une sorte de fil qui s'est tissé entre l'interprétation de la maladie à travers un territoire du répertoire et puis un territoire plus contemporain, plus sociétal, et de savoir comment on allait brouiller les frontières entre les deux, entre le réel et la fiction, et finalement parler des actrices.
Et c'est très frappant, effectivement, on passe d'un lieu à l'autre, par les couloirs notamment, en effet. On met parfois un moment à se rendre compte que l'on a changé d'endroit. Je vous propose d'écouter un extrait. Nous sommes au départ dans la loge d'Alexandra Kurzak, qui est donc en train de se faire poser sa perruque pour jouer Violetta. Puis nous sommes à Gustave Roussy, avec cette femme malade du cancer, qui va faire un essai de perruque.
Vous avez des questions au préalable de décès?
Eh ben non, c'est vrai que c'est complètement irréel, mais du coup j'arrive pas à me rendre compte, mais j'ai besoin de savoir que je peux vite avoir une solution.
Voilà, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de vous rassurer, de vous dire qu'aujourd'hui, vous repartiez en vous disant il existe des choses, voilà. Je peux me décider rapidement au moment où j'en aurai vraiment besoin.
C'est ça.
En termes de suivi, on va vous suivre aussi pendant, si vous le voulez bien, pendant toute l'étape, aussi au moment où vos cheveux, s'ils doivent tomber à ce moment-là, on sera là pour vous faire un soin qui sera celui de mettre à nu votre cuir chevelu pour que vous soyez la plus confortable possible. Et on vous réexpliquera bien comment porter votre perruque, comment l'adapter, s'assurer qu'elle est confortable et que vous puissiez être sereine. Voilà.
Extrait, Julie Deliquet, de votre court-métrage Violetta, qui fait donc partie de ce film Celle qui chante en salle demain. On est à cheval entre la fiction et le documentaire. La chanteuse Alexandra Kurzak, elle joue, mais vous la suivez à l'opéra comme pour un documentaire. Et la comédienne Magali Godner, elle joue un personnage de fiction, cette femme malade. Mais ce qui lui arrive, et cette scène notamment, est très réaliste.
En fait, ce qui était amusant, c'était de cohabiter avec les deux. C'est-à-dire qu'Alexandra Kurzak était bien réelle, mais elle interprète une fiction. Et à l'hôpital, c'était une fausse malade, mais tous les aides-soignants, la dame du salon de coiffure, étaient des personnes réelles, qui savaient qu'on faisait du faux, mais puisqu'on n'en avait pas non plus vraiment les traceurs, il y avait ce jeu, cette cohabitation comme ça, du réel et la fiction. D'ailleurs, il y a une scène où on entend l'aide-soignante qui sort après avoir posé la chimiothérapie, et on l'entend en off dire « mais je savais plus si c'était vrai, si c'était faux ». Et en fait, on s'est amusé sous couvert comme ça de fiction à provoquer quand même une forme de réalisme ou de transposition, en tout cas de la réalité, par rapport à ces thématiques qui me sont chères.
Alors, on vous connaît comme metteuse en scène de théâtre. Vous avez un collectif In Vitro créé en 2009. Vous avez réalisé votre première mise en scène à la Comédie Française en 2016, Vania d'après Tchekhov. Vous y avez adapté Fanny Alexandre d'après Bergman en 2019. Vous avez aussi adapté un conte de Noël d'Arnaud Desplechin avec votre collectif. C'était en tournée en France, je crois, jusqu'au confinement. Là, c'est donc votre premier passage au cinéma, mais vous avez adapté déjà du cinéma au théâtre. Et en plus, là, vous filmez une scène d'opéra. Vous dites que vous êtes toujours dit que vous iriez vers le cinéma, mais que pour faire du cinéma, il faut faire le deuil du théâtre. Expliquez-nous.
Ben oui, l'un ne va pas sans l'autre. Moi, j'ai fait des études de cinéma très modestes. J'ai fait un bac cinéma parce que mon lycée de secteur me le proposait. Mais du coup, je pense que j'ai quand même été biberonnée à l'analyse filmique. Et je pense que cette analyse filmique m'a vraiment portée à la mise en scène et m'a fait choisir cette carrière-là plutôt que celle d'actrice. Après, je suis toujours à chercher à partir du réel. Donc en théâtre, ce réel-là, il reste avec le réel de la représentation, qui fait que ce temps direct, il est complètement partagé avec le spectateur. Mais la force du cinéma, c'est que le réel, on peut l'enfermer.
Le mettre en boîte.
Le mettre en boîte, voilà. Donc j'ai la sensation qu'un support m'apporte une liberté que m'interdit l'autre et vice-versa. Et c'est vrai que ça fait quelques années que j'ai l'impression que la cohabitation des deux arts, la recherche de comment un art se joue de l'autre, la frustration de l'un et l'expression de l'autre, m'ont fait assumer peut-être plus le mot metteur en scène. Avant, je me considérais comme chef de troupe. Et j'ai cette sensation que cette analyse filmique, finalement, de mon lycée, de mon adolescence, se retrouve dans ce jeu avec la cohabitation des deux arts et puis les différents supports d'écriture, parce que l'adaptation d'un film ou tout d'un coup se poser des questions de théâtre quand on va au cinéma, voilà, moi en tout cas ça me donne une sorte de liberté d'expression. J'ai l'impression de défricher un terrain qui est le mien et qui du coup est un peu en poupée russe.
Et ça vous donne envie de défricher encore de ce côté-là ?
Oui, je pense. Oui, tout à fait. En ce moment, en tout cas, quitte à aller vers plus de radicalité, ça ne veut pas dire que je m'interdirais de réaliser un long métrage ou de monter Molière. Pour moi, il n'y a pas du tout de dichotomie à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce jeu m'amuse et il faut que le support change pour ne pas évidemment se singer soi-même ou rentrer dans un modèle ou un manifeste qui n'est absolument pas mon désir d'artiste.
Vous avez été nommée, Julie Deliquet, donc récemment en directrice du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Vous avez pris vos fonctions dans un contexte très particulier, celui du confinement, puisque c'était le 1er avril. Comment va le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis aujourd'hui ?
Ça va, on s'accroche, on a réouvert à l'équipe, on a réouvert aux répétitions, on a réouvert aux enfants, aux adolescents et aux familles en proposant dans toutes les salles des ateliers d'été gratuits. Donc ça a été une façon de reprendre vie. Alors pour toute l'équipe, c'était une reprise, pour moi c'était une découverte. Mmh. Mais finalement, dans cet état de crise, ça nous a fait aussi choisir prendre des décisions de qualitatif plutôt que de quantitatif, mmh. et revenir aussi à l'essentiel. Et c'était pas si désagréable pour moi de me poser ces questions de radicalité. Après, évidemment que c'est fragilisant de commencer comme ça, qu'on ne sait pas exactement. Évidemment, on est dans l'excitation de la reprise, dans l'enthousiasme de l'idée de retrouver le public en début de saison prochaine, mais quand même dans l'inconnu de savoir exactement quels seront les impacts financiers, quels seront les différents modèles de production qui vont être bousculés d'ici ces deux ans, la fragilité que va toucher les compagnies et notamment les plus petites. Voilà, tout ça crée quand même pas mal d'inquiétudes.
Aller à l'essentiel, vous dites, Julie Zuliquet, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi votre projet, votre vision, vos envies pour ce théâtre à Saint-Denis?
C'est une cohabitation des différents secteurs et corps de métier qui font qu'un centre dramatique national prend tout son sens. C'est ce que disait Olivier Pie, c'est-à-dire que les partenaires de l'éducation nationale, l'action artistique, accompagner les artistes qui cherchent, qui trouvent, on l'espère, mais qui cherchent d'abord, accompagner le spectateur, proposer des...
Aller le chercher.
Aller
aussi.
Le chercher, et puis se poser la question de comment, parce que c'est une grande question, et c'est peut-être à nous d'aller vers lui, et puis des fois, trouver comment passer cette porte est plus simple qu'une autre, c'est une question qui est infinie, mais c'est assez passionnant de voir que c'est des questions à partager, c'est des questions transversales, et que finalement, en passant des fois par la petite porte, on peut en ouvrir une grande. Donc, on reste avec des métiers extrêmement artisanaux qui défendent des grandes idées républicaines.
Oui, nous parlions donc effectivement un petit peu plus tôt sur France Culture avec Olivier Pie de service public de la culture. C'est, je crois, quelque chose qui vous parle beaucoup aussi. Quelle est, vous, votre vision de ce service public de la culture?
Oui, moi, je n'arrive pas à dissocier notre service public du lien dans notre société à l'éducation nationale, à l'hôpital. On est un secteur extrêmement important qui doit se réinventer, qui doit toujours, mais comme tous les services, être emprunt avec notre présent et notre société qui mute. Mais une société sans culture serait vraiment une société malade, et on le sait. Et du coup, ce lien-là, il faut l'accompagner, il faut le privilégier, il faut en prendre soin aussi. J'ai la sensation qu'on est vraiment dans l'ère du prendre soin, et qu'on a un rôle à jouer. Et que cet élitisme qui est souvent décrié est pareil, est une fausse idée. Je dis pas qu'il n'y en a pas, il faut se battre contre, mais cette idée quand même que la culture doit s'adresser à toutes et tous sans perdre une exigence qui est faire des choses extraordinaires quand même, voir un beau spectacle, y avoir accès, le découvrir comme moi j'ai pu le faire avec l'école ou le faire même très tardivement. C'est un lien à la société, une représentation du monde qui est extrêmement importante et dont l'homme a besoin.
Et quel rôle alors là-dedans pour le ministère de la Culture, et en l'occurrence donc là la ministre, c'est l'actualité du matin, la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, dans ce service public de la culture que vous décrivez, que vous appelez de vos voeux, quel est le rôle et la place du ministre et au-delà de l'État au final?
Je pense d'abord nous représenter. Les plus petits comme les plus gros, prendre conscience de notre place dans la société. Moi, j'ai été frappée de voir que c'était important que dans le retour au travail après le confinement, nos métiers soient considérés comme des métiers de travailleuses et de travailleurs. C'est important qu'on ait cette notion-là et que finalement, faire ce métier de manière privilégiée, c'est rare. C'est quand même un métier difficile. Moi, je viens d'accompagner une promotion d'élèves qui sort d'une école nationale. Je me dis pas que leur route est toute tracée, même s'ils sont passés par des grandes écoles. C'est un métier difficile, c'est un métier de passion, de galère, de transmission, beaucoup. Et que je trouve que cette chose-là, elle n'est pas assez valorisée. Et sur le terrain, avec les collectivités territoriales, il se fait énormément de choses. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Ça mérite que ces choses-là soient valorisées aussi pour qu'elles se développent et qu'on ne souffre pas dans quelques années de coupes budgétaires qui seraient catastrophiques. Donc c'est cette considération d'un monde de la culture qui n'est pas replié sur lui-même et qui a une transversalité avec les différents partenaires qui s'opèrent et qui ne manquent pas d'idées. On le voit hein, quand on fait des appels cet été à l'été culturel, il y a énormément de propositions. Moi, quand j'ai dû monter des ateliers gratuits, j'ai toujours tout de suite les artistes qui ont répondu à l'appel. Je veux dire, des forces vives, il y en a, de l'implication, de l'exigence et de l'implication sociétale, il y en a. Cette chose-là, elle doit être entendue et elle doit être accompagnée.
Donc soutien, accompagnement fort de l'État, si je vous entends bien, et en même temps, comment on gère aussi là-dedans, quelque part, la sanctuarisation de la création, parce que aussi l'État doit aussi savoir laisser aux artistes faire ce qu'ils ont envie de faire. Et justement, comment on gère cet équilibre en fait entre accompagnement financier notamment et de reconnaissance très fort, et en même temps liberté artistique totale. Vous souhaitez aussi, j'imagine.
Bien sûr, mais moi je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Le pire, ce serait de tomber dans une radicalité qui fait que on en viendrait à faire des formes post-crise qui seraient complètement adaptées à un besoin. Enfin, je pense que si la culture est un besoin sociétal, mais elle doit rester complètement libre parce qu'elle est impalpable, et que faire un bon spectacle ou faire un mauvais, si on avait la réponse ou la clé, on en ferait toujours des bons, ce qui n'est pas le cas. Et accompagner la création, accompagner la recherche. C'est une exigence, et un artiste bien accompagné qui a les moyens de chercher est aussi un artiste qui va transmettre sa passion, qui va la transmettre hors les murs, et qui va faire aussi son travail d'artiste en dehors de sa salle de répétition. Et ça, c'est un endroit qui est extrêmement précieux, qui est extrêmement fragile. Et si ce temps-là n'est pas donné, si cet accompagnement-là n'est pas donné, on va avoir finalement un nivellement un peu mou qui fait que des grandes formes, que des choses toutes petites qui sont des pépites, sont tout aussi précieuses l'une que l'autre, que ça demande du temps, de la considération et des moyens.
Et on en revient aussi au rapport avec le territoire, avec les territoires. Merci beaucoup Julie Deliquet, nous vous suivrons avec plaisir et curiosité à la tête du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Et puis votre court-métrage Violetta en salle de main, bien entouré hein, par ceux de Sergueï Loznitsa, Karim Moussaoui et Jafar Panahi. C'est donc le film Celle qui chante, à voir à partir de demain au cinéma. Merci beaucoup.
Merci.